De tout temps, l'image a été vecteur de réel, vecteur d'émotion et de discours pour raconter une histoire. Documenter est une façon d'enregistrer dans l'histoire des moments vécus. Mais comme dans le discours politique, militant ou social, le documentaire porte une vision par les choix qu'il opère. Choix du sujet traité, choix de l'angle de vue filmé, choix de l'interviewé et des questions posées. Bref, le documentaire, comme l'éloquence, utilise des techniques pour défendre un point de vue. Aujourd'hui, nous rencontrons Maxime, qui est étudiant en dernière année à l'Institut National de l'Audiovisuel. Bonjour Maxime, aujourd'hui je te reçois pour un café éloquence, une petite discussion entre copains autour d'un café sur le sujet qu'est l'éloquence. Aujourd'hui j'avais envie de parler avec toi d'éloquence dans le documentaire, ou comment le documentaire raconte une histoire avec le réel. Avant qu'on en parle, est-ce que tu peux te présenter rapidement ?
Alors oui, je suis Maxime de Almeida, je fais des études actuellement de production audiovisuelle à l'INA, donc l'Institut National de l'Audiovisuel, et je fais une formation de production qui va m'amener à produire des contenus pour des plateformes, pour des chaînes de télévision, mais aussi pour le cinéma.
Ok, tu as un petit vécu quand même en éloquence, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement, ce que tu as pu faire
Il se trouve que j'ai été formé auprès des plus grands à l'éloquence, notamment toi. Et donc j'ai effectivement participé à un procès de Batman et également celui de la galanterie qui avait lieu à Bordeaux. Voilà, donc j'avais pris la parole à ce moment-là. J'avais d'abord présenté le procès de Batman, puis participé en tant qu'orateur au procès de la galanterie que j'avais d'ailleurs gagné à l'époque.
Voilà. Haut la main.
Haut la main, oui, on ouais. Peut le dire.
Qu'est-ce qui t'avait amené à faire de l'éloquence ?
J'avais dans l'idée à cette époque-là de préparer le concours de la FEMIS, une école assez connue dans le milieu du cinéma, et je m'étais dit que ce serait le moment pour moi de préparer l'oral de la FEMIS. Je m'étais préparé pour l'écrit et je pensais que cette formation d'éloquence pouvait me permettre d'être plus performant, en tout cas à l'oral, si jamais oral il y avait. Il se trouve qu'il n'y a pas eu, mais ça a été quand même une superbe rencontre, et des superbes rencontres d'ailleurs, et ça m'a beaucoup intéressé.
De ta connaissance du cinéma, tout ça, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur comment l'éloquence peut peut-être s'imprégner du cinéma ou le cinéma s'imprégner de l'éloquence ?
C'est une relation assez compliquée, je pense. Le cinéma et l'éloquence, ça peut être très complexe dans l'histoire du cinéma, notamment à l'arrivée du parlant. Beaucoup d'acteurs ont eu du mal à passer au parlant et c'était un vrai challenge pour eux. Et en fait, il y a eu un gros renouveau d'acteurs à ce moment-là, en France notamment, car la plupart n'étaient pas spécialement issus du théâtre, n'avaient pas forcément l'habitude de déclamer des discours et en fait, ça a été très compliqué pour eux.
Ils étaient issus de quoi alors ?
C'était plus des arts du cirque, ça pouvait être des jongleurs, ça pouvait être, c'était plus des spectacles qui sont assez. Quand on voit les films de Méliès notamment. C'est beaucoup de mise en scène et en fait c'était plutôt des gens qui venaient des circassiens ou des gens qui seraient mais qui ne venaient pas forcément du théâtre, qui n'avaient pas forcément l'habitude d'apprendre un texte et c'était pas si simple que ça d'arriver à déclamer un discours devant une caméra ou quelque chose qu'ils ont appris. Et donc c'est vrai qu'il y a eu un gros travail à ce moment-là, en tout cas dans le cinéma. Et mine de rien, quand une caméra arrive, notamment dans le documentaire, les gens ont tendance à s'adapter à l'image qu'ils veulent voir d'eux, et donc arriver avec un discours qui pourrait se construire eux-mêmes, et donc il faut aussi déconstruire. Et ça, c'est assez intéressant. Je trouve que cette parole-là, en fait, est très différente, notamment dans un documentaire. Quand vous filmez sur le long terme, par exemple, vous avez le film Adolescente qui l'a fait sur un très long terme, et au départ, Sébastien Lifshitz expliquait bien que le rapport des deux actrices à la caméra était complètement différent.
Quand et c'est long vraiment...
C'est, lui, c'était dire... sur... 4 ans je crois,
okay.
Donc c'était un très long terme et pour le coup au départ il arrive et il s'intègre dans des familles et donc évidemment tout le monde est un peu surpris par cette caméra, a tendance à jouer un rôle forcément, celui qu'on a envie de voir l'image et finalement en restant 4 ans on peut plus jouer un rôle tous les jours et là il y a toutes les habitudes qui vont revenir au galop et donc forcément c'est ça qu'on veut voir à l'image et c'est aussi toute la richesse d'un documentaire, c'est ces moments de vie là. Donc okay. Je pense que cette parole évolue également dans le temps, dans le cadre d'un documentaire, c'est aussi quelque chose d'assez intéressant.
Ce truc de la sincérité, quoi, tu veux dire, un petit peu au début quand on se retrouve face à une caméra, un public, quelque chose comme ça, on surjoue, en tout cas on joue le rôle de ce qu'on aimerait être.
C'est exactement ça, mais ça arrive souvent aussi dans les acteurs, notamment qui viennent du théâtre, et qui vont au cinéma, ont tendance à surjouer pour mettre en avant, comme un Lucchini pourrait le faire par exemple au cinéma, on voit que c'est un quelqu'un qui a l'habitude de faire du théâtre, qui est très présent, qui a besoin de jouer de ça, de jouer de sa présence, d'être très dans la démesure de la parole. Et c'est intéressant, c'est une autre forme de proposition. Mais c'est vrai que cette parole-là est vraiment amenée à évoluer, je pense. Et dans le documentaire, cette parole vérité a tendance à arriver, je pense, un peu plus tard, en tout cas, ou peut-être plus sincère sous une certaine forme. Mais c'est aussi la caméra qui est au départ, qui peut faire un peu peur, et c'est normal que chacun ait envie de représenter ce qu'il préfère de lui, forcément. Quand on a un documentaire qui est amené à avoir 100 000 entrées dans une salle de cinéma, on n'a pas envie de présenter une face de nous qui est pas forcément élogieuse ou qui est compliquée. C'était d'ailleurs tout le problème de la maman de Emma dans Adolescente, qui a eu beaucoup de mal à se voir à la caméra, assez autoritaire finalement, et
Ouais, se
qui a
découvrir
pas du tout
peut-être.
aimé cette image-là qu'elle pouvait transmettre.
Et oui, en t'écoutant, en fait, c'est vrai que moi, tout de suite, quand j'ai pensé documentaire, j'ai eu en tête les voix off, par exemple, qu'on entend derrière les documentaires à l'américaine. Enfin, je dis à l'américaine, je sais pas trop si c'est à l'américaine ou pas, d'ailleurs. Mais donc, ouais, il y a ces deux paroles. Il y a celle du réal, peut-être donc de cette voix off, etc. Puis il y a celle des gens qui sont des vrais gens, si je sais pas si on peut dire ça comme ça, et qui sont interviewés et qui, du coup, pour le coup, sont pas forcément éloquents dans le sens. Ou peut-être le son au début essaie de l'être, dans ce que tu nous dis là, essaie d'être éloquent, faire des belles phrases, des grandes phrases, des machins, et puis en fait, au bout d'un moment, on redevient peut-être
Plus naturel
plus
sur le
naturel, ouais,
long
c'est ça.
terme, on n'a plus cette mise en scène de soi en fait. Bien sûr, je pense que c'est l'évolution.
Qu'est-ce qui marche le mieux alors? C'est plus de naturel et moins de grandiloquence ou...
Je pense que ça dépend des situations. Pour moi, c'est quand même la parole naturelle et la plus sincère qui prime parce que quand on a une approche qui est plus axée sur le documentaire comme moi. Je peux l'avoir, en tout cas axé sur le réel. C'est vrai que, à mon avis, notamment sur les sentiments, ça fonctionne bien mieux quand il y a une parole naturelle, mais qui est très compliquée à aller chercher. Et tout le monde n'est pas capable de le faire. C'est aussi un long travail, même en restant 4 ans. Je ne sais pas si moi, toi, en restant avec une caméra pendant 4 ans au même endroit, on serait capable d'aller chercher cette parole-là.
De réussir à
C'est pas
complètement l'oublier,
scientifique
ouais.
non plus, quoi. On peut pas dire on reste 4 ans à un endroit, donc forcément, on va avoir une parole sincère, c'est aussi.
Ça me fait forcément penser à toute la télé-réalité, avec ces présences de caméras qui sont tout le temps là, et du coup, à quel point on peut imaginer qu'ils sont des personnages, ou ils sont eux-mêmes, ou ils sont dans une certaine sincérité. Même en parlant, là, je me dis, est-ce qu'on est plus proche du reportage que de la création télévisuelle? Je sais pas trop, qu'est-ce que t'en penses?
C'est plutôt effectivement, ça se rapproche énormément du reportage. Il y a de plus en plus d'émissions qui sont construites comme ça, sur des choses, des caméras qui arrivent dans des endroits, mais des personnes doivent apprendre des textes, doivent apprendre à se comporter. Enfin, un peu, notamment sur Tellement Vrai, c'était exactement le cas. Il y avait Rémi Gaillard qui avait fait
Ah oui.
une prestation où il devait se déguiser, etc. Il avait montré tout l'envers du décor où on mettait en scène ces gens-là en disant, bah, en fait, toi, t'es la personne qui a envie de se déguiser. Et tu vas te déguiser en Rémi Gaillard et tu vas faire n'importe quoi. Et avec des mails de la chaîne pour lui expliquer qu'il fallait qu'il joue ce rôle-là. Donc là, on est vraiment dans la performance pour moi. Et par contre, il y a l'ambiguïté du documentaire. C'est là où ça devient dangereux. Parce qu'on vient attaquer des représentations du réel. On vient inventer des représentations du réel. Et donner cet imaginaire-là à tout un tas de personnes qui peuvent regarder ces programmes en se disant, bah, ça, c'est le réel. Des gens se comportent vraiment comme ça. Et pour moi, il y a une démarche qui manque de sincérité et qui peut troubler, pour le coup, en se posant la question, bah là, on pense être dans le réel, et en fait, on n'y est pas du tout. Parce que le réel est beaucoup plus complexe que ça. J'avais une intervention à l'INA de Mariana Otero, qui avait réalisé un film dans un collège ZEP, et à l'époque, il y avait eu TF1 qui était venu faire un reportage sur 3 jours, parce qu'il y avait eu un problème dans ce collège, etc. Et donc, ils étaient venus et ils avaient filmé quelques images comme ça de jeunes dans la cour qui étaient en train de se chamailler un petit peu, machin. Et ils ont fait un sujet, ça a duré 10 minutes. Ils ont expliqué qu'il y avait des problèmes dans ce collège, ils ont montré des jeunes qui se chamaillaient dans la cour, etc. C'était ce que on peut prêter comme intention à ce collège-là. On se dit effectivement, il y a eu des problèmes, on voit des jeunes qui sont en train de se chamailler dans une cour, on se dit bon, jusque-là, l'association d'idées se fait très rapidement. Et en fait, elle passe 2 ans dans ce même collège. Et c'est beaucoup plus complexe que ça, toutes les relations, toute la classe, l'ambiance de la classe, les professeurs, les relations avec les professeurs, comment elles évoluent, comment eux évoluent en fonction des classes dans lesquelles ils sont aussi. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et en fait, c'est confronter son idéologie à un réel et vraiment à ce qui se passe et se laisser emporter par ça. C'est-à-dire ne pas vouloir calquer des pressentis sur un réel. Vraiment se laisser emporter par ça. Et aller chercher cette parole-là qui existe et qui doit être sincère, évidemment, pour être la plus forte possible, je pense. Ouais, bien sûr.
Ouais, on tombe forcément à la télé dans ce biais qui est fasciste, et on a peu de temps, il faut faire passer une idée rapidement, simplement, et les gens qui regardent sont pas experts, donc toute la complexité de l'idée,
Bien sûr.
elle passe à travers. Mais d'ailleurs, je trouve qu'on a vite ça dans les discours aussi, d'éloquence ou autre, mais avec cette contrainte de temps qui fait qu'en 5 minutes, on doit essayer de poser une idée forte. Et qu'en 5 minutes, évidemment, la complexité des enjeux qui sont derrière une idée ne peuvent pas être abordés. On va au plus direct. Et du coup, souvent, au mensonger aussi, forcément, quoi.
Alors on s'arrange forcément avec une forme de réalité enfin ça me rappelle le procès de la galanterie où effectivement on avait dû s'arranger avec la définition même de la galanterie qui était complètement dépassée et donc pour gagner un procès à propos même de la galanterie il fallait
Toi, tu défendais
déjà
la galanterie?
moi je défendais la galanterie et donc je pouvais pas défendre la définition de la politesse empressée auprès d'une femme, c'était impossible. Enfin, c'était indéfendable, donc il fallait qu'on arrive à trouver une autre définition qui datait, qui était en plus plus ancienne et qui parlait pas de femme directement, en parlant simplement de politesse empressée auprès d'une personne, auquel cas c'était beaucoup plus défendable. Donc c'est effectivement tout le débat ici, bien sûr.
Ouais, qui s'ancre aussi dans une réalité qui est socio-historique. Là, pour le coup,
Oui.
on voit bien que la galanterie, qu'elle ait eu du sens ou non, elle participait à une construction socio-historique à une époque.
Bien sûr.
Et voilà, l'époque évoluant, forcément, ça n'a peut-être pas la même valeur aujourd'hui, quoi. On va pas refaire ce procès-là maintenant.
Non.
Ok, alors c'est vrai que je pensais parler plutôt cinéma avec toi, mais en fait, on peut peut-être parler aussi reportage, et puis on parlera cinéma une prochaine fois. Dans le reportage, toi, il y a des moments de prise de parole comme ça, des reportages que tu connais, qui t'ont marqué, qui t'ont choqué, qui t'ont ému, peut-être, voilà, en transporté, etc.
Alors, étonnamment, je vais reparler de Sébastien Lifshitz parce qu'il se trouve qu'il a sorti un autre film aussi récemment sur Arte, il s'appelle Petite fille. Et il y avait c'est une enfant qui est née homme et qui veut être femme. Et donc, c'est sur toute cette transformation-là, à son âge, tout ce que ça comprend comme difficulté.
Quel âge est là?
Elle a, je crois qu'elle a 9 ans. Et donc, elle a conscience de tous ces problèmes, enfin, tous les problèmes que ça peut comporter par rapport à l'école notamment. Et par rapport à l'acceptation de ça, elle ne peut pas aller habillée en femme à l'école parce que l'école l'interdit, etc. Enfin, c'est assez compliqué comme situation de se sentir femme dans un corps d'homme aussi jeune. Et à la fin, on finit sur le problème du développement hormonal et comment réguler ou pas, ou comment en tout cas gérer ça, et pour que ce soit un choix sur lequel elle puisse avoir une décision à l'avenir qui puisse évoluer, ou prendre une décision définitive de devenir une femme. Enfin, c'est des vrais sujets. Et y a des échanges avec cette petite fille qui sont incroyables. Enfin, c'est vraiment d'une beauté sincère et c'est aussi la parole d'un enfant qui n'a pas forcément le même rapport à l'image que nous, je pense,
Pas les
et
mêmes filtres et tout,
pas les
ouais.
mêmes filtres. Et je trouve que cette image est d'une beauté assez transcendante. Ça m'a vraiment marqué. Et cette parole-là qu'elle arrive, c'est quelques mots, c'est pas des longues phrases, on parle pas de grandes tirades philosophiques, on parle de quelques mots où elle arrive à exprimer ce qu'elle ressent. Et je trouve que c'est vraiment très très beau.
On entend vraiment que c'est ce côté-là de sincère et un peu du cœur, quoi, qui te parle le plus, quoi. T'as d'autres exemples comme ça de moments comme ça dans les reportages, dans des documentaires, de choses qui t'ont un peu embarqué
Dernièrement, je réfléchis à ce que j'ai pu voir. Si le film Un pays qui se tient, ça, aussi, il y a eu des moments assez forts avec des interviews. Pour le coup, c'était des moments avec des caméras plutôt fixes et avec des paroles qui étaient assez lourdes, où on expliquait que, par exemple, à une manifestation, quand on perd un œil, comment on vit avec ça, la reconstruction, enfin c'est vraiment des problématiques intéressantes à voir, et c'est vrai que les paroles étaient données avec une certaine intensité, et c'est vrai qu'elles prenaient une dimension lourde qui était très présente, et je trouvais que c'était assez beau. Mais c'est la manière de le subjuguer aussi, c'était un fond noir très simple avec quelqu'un assis dans un fauteuil qui explique ce qui s'est passé dans sa vie, et je trouvais ça assez beau justement de laisser place à cette parole, de pas rajouter d'artifice. Et c'est vrai que c'est un moment ouais, c'est très très fort. Mais en même temps, on peut aussi avoir ça, ça me rappelle aussi le documentaire qu'il y avait eu sur le procès contre Mandela et les autres, qui en fait il y a eu la restauration de toutes les archives sonores du procès de Mandela, mais aussi de toutes les personnes qui avaient été arrêtées avec lui à ce moment-là, donc aussi Walter Sisulu par exemple. Et donc c'était un film qui a été animé finalement à partir de ces archives sonores, et c'était assez intense la puissance de tous ces mots-là, et aussi la résonance aujourd'hui. Il y avait un discours qui était extrêmement raciste à ce moment-là, et c'est vrai qu'on a du mal à se rendre compte que c'est pas si vieux que ça, l'apartheid finalement, et on a du mal à se rendre compte de la teneur de ces propos-là et de ce que ça peut nous faire ressentir aujourd'hui. Et c'est vrai que le film était très très beau pour ça, parce que ça faisait vraiment résonner ces paroles-là, et avec un dessin assez simple finalement, avec juste des mouvements de crayon, et c'était je trouvais que c'était une parole qui était vraiment très très belle à entendre. Il y a Arte qui a fait aussi un documentaire sur le procès de Nuremberg qui est sorti là, et c'est vrai que ces paroles là sont aussi très 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 intéressantes à comprendre, en plus de l'enjeu de ce procès qui était évidemment immense.
Mais ce que j'entends beaucoup quand même, c'est que les paroles dans les reportages documentaires qui t'ont touché, c'est quand même toujours des sujets forts de société, avec des gros impacts, etc. Pour toi, il y a un lien en fait direct entre cette parole qui doit servir, ou servir, c'est peut-être pas le bon terme, mais qui doit sublimer une cause, réussir à dénoncer, réussir à montrer quelque chose comme ça.
Je pense qu'il y a toujours, pour moi, dans le documentaire et dans la diffusion qu'il peut avoir, notamment sur des grandes chaînes nationales ou européennes, ou même mondiales d'ailleurs, ou même sur une plateforme. Pour moi, la diffusion que sous-entend un documentaire lui donne une responsabilité aussi par rapport à ce qu'il doit montrer, et donc il doit montrer la société dans laquelle il vit. Pour moi, c'est aussi le rôle de l'art de pouvoir transcrire ça, de pouvoir montrer une société à un moment, à une époque. Et je trouve que effectivement, c'est quelque part la force du documentaire de montrer ça, et c'est une de ses responsabilités aussi. De montrer comme ça, depuis tout le temps en fait, les documentaires, le premier documentaire en Écosse sur des pêcheurs était juste montrer des pêcheurs qui vont pêcher, c'était simple comme idée, mais ne serait-ce que ça, montrer des pêcheurs qui vont à la pêche dans les années 30 en Écosse, c'est pas si simple en fait, d'avoir des premières images comme ça et de montrer le quotidien de gens qui travaillent, ça peut être aussi, sans que ce soit quelque chose de l'ordre d'un discours qui serait beaucoup plus complexe d'un point de vue universitaire par exemple, ou sur lequel il y aurait eu énormément de recherches avec une voix off qu'il faudrait calquer sur des images, etc. Je pense qu'il y a aussi un truc de la simplicité qui doit être là, et des gens qui, on les suit juste en train de travailler, et on leur montre, voilà, bah, c'est le rôle du documentaire pour moi aussi de montrer à ce moment-là des gens qui travaillent,
le réel,
et le réel de ce moment-là de vie.
Après c'est un truc un peu sociologique quoi.
Bien sûr.
Alors l'exemple presque inverse de ce que tu dis là, ça me fait penser à ce... appeler ça un reportage ou un documentaire me semble erroné, mais cette vidéo qui est sortie sur YouTube il y a quelques temps sur un complot mondial par rapport au coronavirus, etc. Tu vois de quoi je parle ?
Oui.
qu'est-ce que tu peux nous en dire, toi, en tant que entre guillemets, professionnel, un peu de...
C'est assez compliqué. Pour le coup, j'ai regardé par curiosité ce à quoi ça ressemblait, effectivement, juste pour me donner une idée, pour pas parler dans le vide complètement. Mais il se trouve que ce genre de documentaire, on a la chance en France, entre guillemets, qu'ils ne puissent pas avoir l'appui d'une chaîne de service public. C'est-à-dire que c'est présent sur YouTube, mais quelque part, on a une... je sais pas si on peut appeler ça une sécurité, mais on a une chaîne ne pourrait pas diffuser un documentaire comme ça. Et pour moi, ça permet au documentaire d'exister, mais quelque part, il est quand même sur une partie un peu moins visible et il a moins cette validation entre guillemets d'institution. C'est également pas ce qu'il recherche, évidemment. Mais déjà, il n'a pas cette validation-là et je pense que c'est déjà une petite différence qu'on pourrait avoir avec un pays comme les États-Unis, par exemple. Mais sur le discours que tient un documentaire comme ça, le gros problème, c'est qu'il arrive à avoir des personnalités qui sont assez reconnues et qui peuvent avoir des impacts médiatiques évidemment importants. Après, sur le fond, il a quand même été assez bien...
débunké, on peut le dire.
Assez bien débunké, je pense qu'on peut le dire, mais c'est un gros travail. Enfin, pour le coup, sur les fake news, on a de plus en plus de journaux,
Ouais, il y a un gros taf de faire.
Fact-checker, enfin, on peut facilement démonter. Après, c'est aussi une approche de chacun par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on va forcément aller chercher des choses sur lesquelles on a des doutes. Et forcément, un vaccin, on sait qu'il y a eu en France des problèmes avec des vaccins qu'il y a pu y avoir, qui ont pu être développés, ou avec des prothèses, par exemple, pour les femmes, des prothèses mammaires, on sait qu'il y a eu des problèmes avec ça. Et donc, on se dit, le médical n'est pas forcément toujours blanc ou noir. Et il y a un doute. Donc c'est profiter de ce doute-là et aller s'insérer là-dedans. C'est très dangereux, évidemment, parce que ça permet de dire à peu près tout et n'importe quoi, ou de faire dire à des gens qui ont été des prix Nobel, qui ont été...
Et si on sort complètement de la question de fond, sur laquelle on a l'air d'être d'accord, hein, en termes de réel, en termes de parole, c'est extrêmement efficace, quoi.
Plus ou moins, c'est en termes de réalisation, c'est assez simple en fait. C'est mettre quelqu'un sur un fauteuil qui discute.
C'est ce que tu disais juste avant.
Bien sûr, c'est exactement les mêmes procédés. Et en même temps, au tout départ, il y a une voix off très présente avec le réalisateur qui parle. C'est quand même un documentaire qui coûte beaucoup d'argent. Enfin, pour un documentaire, c'est un budget qui est assez conséquent quand même. Okay. Et surtout avec un.
C'est intéressant rapidement pour nous donner des ordres de grandeur sur un documentaire comme ça par rapport à. Pour d'autres exemples que tu pourrais
j'ai
avoir.
Plus exactement les chiffres en tête de ce documentaire, mais il me semble que c'était de l'ordre de 350 ou 400 000 euros en crowdfunding. Okay. Ce qui est,
Et sur un petit des documentaires, par exemple dans les collèges lycées dont tu parlais tout à l'heure ou,
On serait, à mon avis, sur des chiffres à 200, 250 000 euros.
Ouais, ok.
C'est un peu moins élevé, avec des tournages qui sont forcément. C'est pas les mêmes économies, mais. Pour le coup, 400 000 euros pour un documentaire comme ça,
c'est énorme.
C'est plutôt important. Ouais.
Ok.
C'est plutôt intéressant d'ailleurs de voir qu'il a eu autant d'argent pour le faire.
Ouais, inquiétant, intéressant, ouais.
Oui.
On pouvait en parler, quoi.
Plutôt inquiétant, oui, c'est un peu des deux, évidemment.
On va essayer de pas trop dévier sur ce sujet-là qui est aussi passionnant, mais qui n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Entre les deux, tu vois, entre ce documentaire, donc Hold Up, qui est voilà, effectivement. Sur un prisme totalement d'un côté, de l'autre, tu nous donnais cet exemple hyper minimaliste des pêcheurs dans les années 30. Est-ce que là-dedans, il y a plein de choses, j'imagine, qui peuvent exister, des documentaires plus ou moins attendus, plus ou moins polémiques. Moi, j'avais beaucoup aimé le travail de Pierre Carl, il y a maintenant, c'est un petit moment, hein, qui me semble être encore sur un. Ouais, qui se situe encore ailleurs. Je sais pas, qu'est-ce que tu veux nous en dire, est-ce que tu connais un peu et...
Ouais, je connais un peu Pierre Carl, j'aime bien ce qu'il fait. Après, c'est très démonciateur, c'est très Pierre Carl n'est pas inintéressant dans le monde des médias, mais Pierre Carl pose quand même un discours que lui a de base, je trouve, et il va chercher les réponses à ses questions. Et quand il va un peu traquer des gens pour leur poser des questions, pour aller leur dire, bah tiens, répondez là-dessus, répondez là-dessus, répondez là-dessus. Il va quand même chercher une parole où lui se met beaucoup en scène et il va quand même chercher une parole qu'il attend. Et effectivement, il la trouve parce que c'est des sujets où je pense que c'est assez simple de confronter en disant, bah là, est-ce que vous allez répondre à ça? Bah évidemment, je sais pas, le président de Total a rien à dire sur l'écologie et sur le fait de.
Maintenant, un peu plus en fait. Mais effectivement, il y a. Il y a 20 ans quand il faisait ses reportages-là.
Bien sûr. Mais après, c'est pas inintéressant. C'est aussi un rôle de... Quelque part, c'est... Il a eu des rôles de lanceur d'alerte sur certains sujets. Donc, c'est pas inintéressant.
Mais une parole un peu manipulatoire quand même.
Bah, quelque part manipulatoire. Après, on l'accepte plus ou moins parce qu'il s'adresse aussi à un public qui est plutôt politisé dans son sens. Donc, forcément, forcément les gens l'acceptent parce que si on est politisé dans le même sens que lui, on accepte qu'il fasse ce rôle-là d'aller interviewer, d'aller calquer des idées qu'on partage. Et finalement, c'est vrai que c'est intéressant dans ce qu'il peut nous montrer, parce qu'on se dit effectivement, il nous apporte un discours qui est politisé en notre sens, si on est un public plutôt politisé comme lui, je pense. Enfin, les gros documentaires de cinéma aujourd'hui sont faits par...
Ruffin, là, récemment, nous fait un peu... nous a fait plutôt un peu du Pierre Calme. J'ai trouvé sur Merci Patron, on retrouvait un peu ces types d'approches, enfin, un peu encore différemment, mais... c'est vrai qu'en t'entendant, on se pose la question sur la création d'un discours dans un concours d'éloquence, peu importe, de venir essayer de convaincre des gens à une idée qu'on aurait. En fait, c'est un peu ce que tu nous dis. Il y a Pierre Calme, il a une idée, puis il va essayer de convaincre les gens avec des images et ce reportage. Hold Up, ils font pareil. Pour les pêcheurs, j'imagine qu'il y avait une idée peut-être aussi, faire passer une sorte d'idée, de message, la difficulté ou la simplicité de cette vie-là. Comment toi tu analyses cette construction de discours, les ressorts, etc.
Pour moi, le documentaire, c'est documenter, donc ça met une image sur quelque chose aussi, des sons forcément. Mais je sais pas quelle conscience il y avait sur l'histoire des pêcheurs dans les années 30. Je pense que c'était déjà à cette époque-là, comme il y avait beaucoup moins d'images, c'était un. Ne serait-ce que déjà de documenter un moment de vie. Et ne serait-ce qu'avoir une image de pêcheur qui existait assez peu à ce moment-là. Donc c'était déjà avoir dans une base quelque chose qui soit de l'ordre de juste. D'une image qui montrerait quelque chose pour mettre une preuve à ce moment-là de ce qui existait vraiment de cette chose-là qui serait vraiment pour moi plus de la démonstration donc avec l'image c'est peut-être en ça que le documentaire se pose un petit peu dans le discours parce que justement l'éloquence serait plus une forme de on essaie de convaincre plutôt. On a cette envie plutôt d'essayer de convaincre son auditoire, d'essayer de prendre la parole de manière assez, assez distincte, mais c'est aussi complètement différent. On n'a pas les mêmes supports, c'est-à-dire quand on prend la parole pour un concours d'éloquence ou simplement pour prendre la parole en public, pour un oral, pour tout un tas de choses, on veut développer une idée, mais on a simplement notre voix. Le documentaire apporte aussi une image qui va forcément faire sens. Alors après, on peut la construire ou pas de manière assez, assez différente. On peut juste illustrer quelque chose. On peut illustrer les idées qu'on a déjà. Ça pose d'autres questions sur le discours parce que l'image propose aussi un autre discours elle-même. Donc forcément, c'est tout l'enjeu d'arriver à calquer un discours. Quand on met une voix off dans un documentaire, c'est tout l'enjeu d'arriver à soit illustrer, soit remettre en question. C'est des gros débats de documentaire de savoir est-ce qu'on met une image pour illustrer ce qu'on dit ou est-ce qu'on apporte un autre discours avec l'image.
Un double discours en parallèle.
Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse l'image parler pour nous? Est-ce qu'on impose une voix? Comment on le... Alors que effectivement, quand on fait une prise de parole à l'oral ou quand on parle d'éloquence, de concours d'éloquence, on n'a que notre voix comme support, donc on doit faire passer tous les messages sur même médium et ça devient beaucoup plus.
Ouais, on pourrait aussi imaginer que la personne, sa façon d'être habillée, de se tenir, d'être coiffée, etc., elle vient aussi jouer avec cette image-là qui peut être une sorte de double discours. Pas que les mots qui jouent. Ouais. Dans cette construction-là des documentaires, toi, Maxime, c'est quoi, du coup, ton approche Déjà, attends, juste, c'est vrai que peut-être une petite précision, documentaire et reportage, on a mis les deux même un peu ensemble depuis tout à l'heure. S'il y a deux mots, il y a peut-être deux définitions qui sont pas si égales.
Alors le reportage serait plus de l'ordre ce serait très journalistique et le documentaire serait plus de l'ordre de la démonstration dans le sens le discours est un peu différent en fait. Le reportage a pour moi la définition n'est pas claire, il y a pas de
Il n'y a pas de consensus.
Il y a un consensus mou. C'est compliqué parce que beaucoup de chaînes aiment bien faire des reportages et laisser une frontière un peu minime avec le documentaire pour éviter d'avoir à faire trop de documentaires et pouvoir se contenter de faire uniquement du reportage. Normalement...
Plus de neutralité dans le documentaire? Est-ce qu'on peut se dire ça simplement comme ça ou pas du tout?
Il est censé y avoir plus de neutralité dans le reportage et justement un point de vue dans le documentaire. C'est l'histoire de point de vue, d'accord. Et parce que le documentaire doit être normalement plutôt un cinéma d'auteur où on vient quand même démontrer quelque chose. Ça vient documenter, mais il y a quand même un auteur qui a une vision du réel, et donc c'est apporter sa propre vision du réel et dire moi j'ai une caméra, mais en tant que personne, avoir conscience de ce qu'on est et de moi je filme comme ça la situation. Mais,
avec mon prisme personnel.
Voilà. Mais toi, tu filmerais tout autrement la situation parce que tu as envie de montrer telle image, que tu es conscient que faire un cadre carré avec un personnage l'enfermera. Donc, c'est ce qu'on va montrer à l'image. Enfin, l'image a du sens, forcément. Et chaque personne qui tient une caméra la tiendra différemment. Et ce qu'elle dira avec cette caméra sera aussi assez puissant. Et ça, c'est assez compliqué. Et ça s'oppose un petit peu à la fiction où on pourrait dire là, il y a un angle parce que la scène sera magnifiée si elle est. Si la caméra est posée dans cet angle-là, ce sera le meilleur angle pour filmer la scène. Dans un documentaire, je pense qu'il y a moins cette notion-là de justement d'angle parfait, parce qu'en plus les scènes sont mouvantes. Enfin, c'est le tout principe d'un documentaire, c'est de filmer une vie. Donc forcément, on peut pas fixer comme ça. Et le reportage serait justement un peu plus neutre en opposition et se contenterait de démontrer quelque chose, mais sans prendre forcément de point de vue et en étant juste dans la démonstration. Voilà. Telle chose, on filme, on calcule.
Alors
voix
que le
pour
que tu
disais,
le
passe,
choix d'image, tout ça va au final quand même conditionner le point de vue.
Oui, voilà, c'est ça.
Et alors, pour finir, si on devait un peu. Si toi, Max, tu devais nous donner ton regard un peu sur ce que serait le reportage que tu aimerais faire, ce que tu aimerais défendre comme idée, comme point de vue, tu vois, le discours que tu aimerais porter avec un reportage ou documentaire.
Par exemple, là en ce moment, il y a une idée qui me vient. Je suis en train de lire un livre qui parle de la vraie histoire de Sa Majesté des Mouches. Et donc, il se trouve que au large des îles Samoa, il y a eu un petit groupe de jeunes qui s'est retrouvé à voler le bateau d'un pêcheur qu'ils aimaient pas trop. Et ils se sont dit, tiens, on va aller faire une petite escapade et on va aller jusqu'en Nouvelle-Zélande. On va rigoler, sauf qu'en fait, il y en avait aucun qui savait naviguer. Et donc ils sont partis, ils étaient 6, et ils sont partis sur ce bateau, et il se trouve qu'ils ont forcément échoué sur une île entre les Samoa et la Nouvelle-Zélande, parce que c'était beaucoup trop loin pour eux, ils étaient incapables de naviguer aussi loin, donc ils sont échoués sur cette île, ils se sont retrouvés complètement isolés, et en fait, dans Sa Majesté des Mouches, il se trouve qu'ils s'entretuent plus ou moins, qu'ils ont commencé à se manger, etc. Et là-bas, donc ça c'est l'histoire fictive. Et l'histoire réelle fait que en fait, ces jeunes gens qui se sont retrouvés sur une île ont collaboré, il n'y a eu aucun conflit, et ils ont été très stables, et en fait il se trouve qu'à un moment il y a un bateau qui est passé au loin, et ils ont nagé jusqu'au bateau, et juste ils ont donné l'alerte, et c'était un an et demi après, et un an et demi après ils sont juste retournés sur leur île, et tout s'est bien passé. Et c'est sur cet aspect collaboratif pour moi, s'il y avait quelque chose, un documentaire sur lequel j'aimerais bien travailler, enfin en tout cas... C'est une idée de documentaire que j'ai en ce moment et qui, je pense, pourrait être intéressante, de cette relecture justement un peu humaniste des rapports humains, de se détacher un peu de la pensée que l'humain seul devient très bestial, ou alors quand il est ramené à des conditions comme ça aussi, aussi primaires finalement, il devient l'homme est un loup pour l'homme, etc. Enfin, on est sur des choses qui, pour moi, doivent être remises en question aujourd'hui. Enfin, Sa Majesté des Mouches, on parle d'un texte qui a quand même été influencé aussi par une grande partie de l'histoire, notamment le nazisme et les guerres mondiales. Enfin, il a été écrit avec tout ça en conscience, évidemment. Et je pense que les histoires comme celle-ci, qui sont des histoires vraies sur ce groupe de jeunes, devraient être un peu gagneraient en tout cas être un peu plus connues. Et il se trouve qu'en plus, il reste deux personnes de ce radeau qui sont en vie aujourd'hui. Et qui habitent en Australie, donc ce serait intéressant d'aller les rencontrer. Oui. Et qu'en plus il y a des images du sauvetage qui ont été tournées en pellicule à l'époque, donc qui sont très très belles. Et je pense qu'il y aurait un vrai sujet là-dessus, mais sur plus largement la relecture de Sa Majesté des Mouches, qui est quand même un succès international. Et donc sur la réalité de ça, et finalement confronter le récit fictif au moment où il a été écrit à la réalité des faits finalement, et de ce groupe de jeunes-là et leur vie sur cette île qui a été finalement sans conflit et au contraire plutôt bénéfique pour eux.
Relecture en ce moment qui est un peu ressentie parce qu'on entend beaucoup parler de collapsologie, d'effondrement, et qu'en cas d'effondrement, il y a deux issues possibles, la collaboration, l'entraide, etc. Ou alors plutôt lié à Sa Majesté les Mouches, quelque chose qui serait plus violent, plus de relations dominantes, etc. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de philosophes en ce moment essaient de faire tendre vers l'idée que, bah non, en fait, l'homme en temps de crise, il peut aussi aller vers l'entraide et pas forcément aller vers la domination des autres, quoi.
Et même à l'état primitif, enfin, il y a de plus en plus de recherches qui démontrent qu'il y aurait deux Homo sapiens au départ, et que c'est finalement celui qui était le plus mignon des deux qui est resté aujourd'hui et qui est véritablement notre ancêtre en fait. Car celui des deux qui était le plus méchant s'est autodétruit finalement lui-même parce qu'il voulait pas faire d'enfant, parce qu'il était très violent avec tout le monde, donc il n'avait pas l'occasion de se reproduire. Et donc finalement il s'est petit à petit éteint, et donc il y a une théorie de l'homo sapiens, l'homo mignon même, qui serait juste voilà, celui qui a envie plutôt d'avoir une vie assez stable et qui est content de voir tout le monde, qui s'entraide, et en fait l'espèce a pu perdurer comme ça, et pas en étant juste bestiale, en étant violente, etc. Donc c'est vrai qu'il y a
Carrément.
une. Ça va assez loin je pense, dans la construction. Et pour le coup, je pense qu'on a besoin de ça en ce moment où. On
Plus
a
d'espoir,
en
quoi.
plus voilà, une condition sanitaire un peu compliquée, donc forcément je pense que ça amènerait de l'espoir, et c'est aussi des relectures qui sont un peu positives. Et c'est vrai que quand on regarde des JT par exemple aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de messages positifs, donc c'est vrai que ça ferait du bien de savoir que chacun peut aussi être solidaire et que ça fonctionne, et que c'est pas juste une utopie, parce que ça fonctionne dans les faits. On n'est pas juste des êtres
D'où l'intérêt
bestiaux,
d'aller raconter
on est
certaines
doté de
histoires.
sensibilité, et on a aussi besoin de voilà,
Ouais.
besoin de tout ça. Donc je pense que ce serait un film important à voir en tout cas. Voilà.
J'entends très bien. Et pour finir, du coup, là, je vois que le temps passe, on arrive à la fin de cette interview. Si tu devais là, essayer de donner des conseils un peu sur cette parole que t'aimes porter, quoi, ces paroles vraies, ces paroles sincères. Pleine de philosophie et aussi d'espoir, c'est un peu ce que tu nous as dit là durant toutes ces 40 minutes. Quels seraient ces conseils-là que tu donnerais comment bien mener ça, comment faire que ça fonctionne pour un public, etc.
Bah, je pense que c'est exactement comme le documentaire, on va se rapprocher de ça, mais d'aller chercher cette sincérité-là. Je pense que si on est avant tout sincère dans ce qu'on dit et dans ce qu'on porte, on va être écouté beaucoup plus facilement. Et je pense que la personne en face, enfin là où les personnes d'ailleurs, en face de vous, à partir du moment où vous êtes sincère, vous pouvez porter une parole qui est très simple. Ça demande pas forcément ça demande un entraînement dans le sens où c'est pas forcément si simple que ça de pas arriver en disant je vais me mettre en scène pour apporter cette parole, pour la sublimer, etc. Et pour moi, c'est en fait quelque chose d'assez simple de juste donner une parole sincère. Mais ça demande beaucoup de travail pour arriver justement à être dans un confort qui nous permet de donner cette parole de manière très simple et très sincère. C'est un entraînement, je pense qu'il y a un vrai travail, c'est quelque chose de simple dans les mots, de dire voilà, j'ai besoin d'une sincérité de quelqu'un qui me transmet des émotions, c'est très simple, et je pense on peut avoir un consensus rapidement là-dessus. Par contre, ça demande énormément de travail pour être dans une situation pour moi, de confort, parce que c'est vrai que ça fait souvent très peur de prendre la parole devant un public, quel qu'il soit, pas forcément devant 500 personnes, mais devant deux personnes qui nous impressionnent, c'est tout aussi compliqué, ou même une personne, ça peut être très compliqué. Et justement, en s'interrogeant sur qu'est-ce qu'on veut donner de nous devant une personne peut-être qu'on admire, par exemple? Comment se présenter? Et c'est vrai que je pense qu'en s'entraînant comme ça, en ayant l'habitude de ne plus avoir peur, en fait, finalement, on se rend compte que les relations sociales sont plus simples, qu'on arrive à tout un tas d'interactions,
De plus
peut-être
avoir peur de quoi?
plus avoir peur de l'autre, peut-être. Enfin, c'est
Ouais.
vraiment
Moi
pour
je
moi,
dirais
il y a
peut-être
quelque
plus
chose
avoir
comme ça.
peur
Ou
de...
peur de soi, peut-être.
Ouais.
Et peur de soi, quelque part, je ne sais pas.
Ouais, merci beaucoup.
Merci.